Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon émission Le vaccin en question, dans le cadre d'Histoire d'en savoir plus. En savoir plus, effectivement, ça nous rendrait bien service en ce moment. Et je suis très heureuse de recevoir dans ce studio du ROCAS mon ami le docteur généraliste Yves Pupil, qui est médecin à Tréon. Et bonjour Yves.
Bonjour Marie-France.
Et tu me dis à l'instant qu'en fait, tu es le plus jeune installé de Dreux.
Absolument. Maintenant, depuis le départ de Jean-Pierre Cochelin et de Jean-Pierre Lerville, eh bien, c'est moi qui dois être le plus vieux sur la région de Dreux et des environs.
Et comment ça se passe pour un jeune médecin qui commence alors?
Ça fera 42 ans le 12 avril.
42 ans.
Voilà.
Longue expérience, donc.
Absolument.
Mais enfin, ça, nous vivons en ce moment une expérience que tu n'avais sans doute pas connue.
Ah non, puis je pensais pas finir dans ces conditions-là non plus.
Hein. Oui, mais enfin, en même temps, comme dit le président, il n'est pas question de finir. Tu n'as pas l'intention de prendre ta retraite. D'abord, tu ne pourrais pas.
Non. Enfin, disons que là, maintenant, je ralentis mon activité.
Ralentir ton activité.
Oui.
Mais pour ça, il faudrait quelques aides. Est-ce que tu as...
Oui. Depuis la mi-novembre, j'ai une nouvelle assistante.
Il faut dire que tu as fait tes études de médecine à la faculté de Tours, si
oui,
je me souviens bien. Donc ça te donne peut-être un petit vivier sympathique pour trouver éventuellement des aides.
Parce que je suis maître de stage universitaire, donc j'ai des internes en stage régulièrement. Tous les 6 mois, j'ai un interne. Donc ça me permet...
Ça, c'est précieux.
C'est très précieux.
Évidemment. Est-ce que médecin de famille, médecin de campagne, ça n'est pas une véritable vocation? 42 ans après, qu'est-ce que tu en penses?
Ah ben, moi, j'ai toujours le même enthousiasme. Hein.
Oui, ouais, ça, sais bien, parce que je te connais.
Ça, il n'y a pas de problème.
À défaut d'optimisme...
Je suis moins sûr que maintenant, il y a moins... On n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, je pense, maintenant.
C'est un peu mitigé, hein?
Un petit peu plus. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que la médecine générale renaît un petit peu.
Hein. Parce qu'en fait, quelles étaient les causes de la désertification médicale? On observe ça en Eure-et-Loire, d'ailleurs, malheureusement.
Ah oui, mais nous, ça fait 25 ans qu'on l'avait prévu, ça. Hein.
À cause du numerus clausus?
Entre autres. Et puis, dans nos réunions, on était tous à peu près dans une tranche d'âge à 4-5 ans. On savait très bien qu'on allait tous partir en retraite.
Les médecins du baby-boom.
Bah oui, en même temps. Donc, fatalement, il allait se passer...
Fatalement, il y a un problème.
Fatalement, il allait se passer quelque chose à un certain moment. Hein, comme il n'y a pas eu d'installation pendant... Hein, donc, fatalement, maintenant, on se retrouve avec une...
Avec un désert
complet qui reste désertique.
Bien que j'ai vu que cette année, pour 2020, il y avait 9361 places offertes aux futurs médecins. Mais ça, c'est sur toute la France, j'imagine.
C'est pour toute la France. Hein. Et puis alors après, il faut voir la répartition pour la médecine générale.
Et les spécialités. Enfin, les spécialités, ça ne va pas mieux non plus. Parce qu'effectivement, quand il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo... Et ça pose quelques problèmes.
Ça pose des problèmes partout.
Enfin, l'ophtalmo et les autres, naturellement.
Partout, oui.
Est-ce que tu crois qu'il y a quand même un phénomène, je ne sais plus qui m'avait dit ça, qu'en fait, les jeunes médecins qui sortaient de la faculté préféraient aller dans un milieu hospitalier et être salariés plutôt que de s'installer? Alors, est-ce que la lourde charge administrative, la paperasse pléthorique...
Ça, c'est absolument évident. Là, je pense que depuis, on a l'impression quand même qu'ils veulent revenir à la médecine générale. Moi, j'ai eu plusieurs internes là qui veulent s'installer, ou qui vont s'installer. Donc, on a l'impression qu'il y a un revirement. Mais bon, incontestablement, pendant des années, ce qu'ils cherchaient, c'est des postes hospitaliers, des postes médecine du travail, médecine, tout ça, où il n'y avait pas de... Alors, ce qu'ils veulent surtout, c'est... Ils ne voulaient surtout pas investir. Et pas de contraintes administratives. Hein.
Oui, alors là, évidemment...
Pas de contraintes administratives, pas de personnel à gérer, pas de...
Pour les médecins libéraux, voilà. C'est un peu plus difficile. Ouais. Et la charge financière aussi est dissuasive, parce qu'actuellement, il y a des aides qui viennent... L'Europe, probablement pas. Le gouvernement, l'État, les collectivités locales et les mairies.
Oui, les mairies... s'investissent beaucoup. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand ça pourra durer, parce que...
Là aussi, c'est quoi qu'il en coûte, mais à partir d'un moment, ça devient compliqué, c'est
ça
sûr.
Ça va devenir compliqué.
Il y a les finances municipales qui doivent un petit peu se tarir.
Je pense.
Et puis en plus, enfin, je ne dirais pas que c'est une certaine inégalité, mais si on fait quelque chose vraiment de performant pour les jeunes installations, pourquoi est-ce qu'on n'aiderait pas aussi les médecins un peu plus vieux qui ont du mal dans leur cabinet et qui se disent « mince, et moi, j'y ai pas droit, quoi ».
Ça, on n'arrête pas de se, ça, on n'arrête pas de se le dire, ça. Hein. Mais c'est, bon, c'est vrai qu'à une époque, on n'allait pas non plus réclamer, hein.
Mais oui, mais voilà, c'est ça le problème.
Tu t'installais, on n'allait pas réclamer à la mairie. Non, ça c'était... Bon, maintenant, il y a une telle... Le problème, c'est qu'il y a un tel manque que les mairies sont... ferait n'importe quoi pour attirer des médecins. Hein.
Ils commencent d'abord par ouvrir une maison médicale, oui, à grands frais, ça, et ensuite, ils cherchent des médecins.
Ça, c'est facile, les murs, c'est facile. Hein. Après, il faut les remplir. Ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, est-ce qu'il y a des arrivages de médecins diplômés qui viennent d'autres pays, de l'Est, je ne sais pas
Oui, ça, on le sait. Hein.
Et ils doivent passer, je me suis toujours demandé s'ils devaient passer des équivalences quand ils viennent exercer en France.
Je pense que, de toute façon, il faut l'aval du Conseil de l'Ordre, hein, pour qu'ils puissent s'installer. Hein.
Mm-hmm. Donc, il faut absolument qu'ils aient aussi toutes les qualifications nécessaires pour exercer.
Absolument.
C'est important aussi. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Marie-France Guimard-Roche reçoit aujourd'hui le docteur Yves Pupil, médecin généraliste à Tréon, dans Histoire d'en savoir plus, le vaccin en question. Alors Yves, cette pandémie, la pandémie, comment est-ce qu'on perçoit ça à la campagne? Est-ce que c'est moins anxiogène qu'en ville ou bien est-ce que les chaînes télévisuelles du matin au soir, jour et nuit...
Disons que je pense que... Le premier confinement en campagne, on l'a relativement bien vécu parce que bon, on n'était pas les gens étaient confinés, mais bon,
on a de l'espace.
On avait de l'espace.
Quand
donc,
on a des jardins,
il n'avait pas tellement. Je pense que ça a été plus ou moins bien vécu, tout au moins en campagne.
Tu l'as ressenti ça.
Oui. Mais là, maintenant, ça commence à devenir très très dur. Hein.
C'était très impressionnant parce que je suis allée te consulter à un moment où il y avait effectivement le premier jet, si je peux dire, de la pandémie. Et j'avais l'impression que j'étais en face d'un scaphandrier. La blouse, la surblouse, le masque, le chapeau presque. Je ne sais pas si tu avais un chapeau
on
même.
On avait le Charlotte, oui.
Tu avais une Charlotte,
Oui, oui, on avait le complet et qu'on a eu de grandes difficultés à avoir parce qu'on a quand même commencé... moi, j'ai commencé avec les masques qui me restaient de la grippe aviaire.
Et qui étaient encore bons, finalement.
De toute façon, comme on n'avait rien d'autre, alors je vais te dire.
Non, mais le gouvernement a fait jeter les autres, quoi.
Ah oui, oui, non, mais nous, on avait quand même encore un stock. Ça nous a permis de démarrer comme ça.
Oui. Hein.
Et puis, alors après...
Est-ce que vous aviez aucune dotation par cabinet médical?
On a eu après, mais au début, on n'avait rien. Hein. Et donc...
Et la première dotation n'était pas très...
Après, on allait chercher à la pharmacie nos masques. Je ne sais plus combien on avait droit, mais enfin bon, c'était pas...
Et ça va mieux maintenant, les masques?
Les masques, t'en as partout, hein, maintenant. Hein. Mais on n'a plus de dotation, nous. Hein.
Autrement dit, il faut les acheter, quoi.
Oui, mais enfin... y a des masques... Alors maintenant, il va y avoir un problème parce que les masques tissus vont plus être fiables. Donc,
Donc il n'y a plus que les masques FFP2.
Non, puis et ceux-là, les masques...
Et les masques chirurgicaux, oui. Mais ça, ça fait un moment qu'ils sont diffusés aussi, les masques, masques chirurgicaux. Oui.
Bon, ceux-là, si tu veux, il est évident qu'ils sont peut-être moins étanches que les FP2. Hein,
ça, oui, c'est ça c'est sûr. Hein? Mais ils sont aussi moins contraignants parce que le masque FFP2, il faut vraiment...
Je crois que ceux-là, on va les garder, on les gardera dehors.
Oui, oui. Hein? Maintenant, mais dans un magasin, j'ai l'impression quand même que si on a un FFP2, il vaut mieux le mettre. Hein.
Je pense que dans certaines conditions, maintenant, il va falloir mettre des FP2, hein, parce que ça sera quand même plus sûr. Hein.
C'est plus sûr, c'est certain.
Moi, au cabinet, je mets des FP2. Hein.
Oh bah oui, bien sûr. De toute façon, c'est ton métier.
En consultation, je mets des FP2.
Il faut absolument que tu te protèges. Si les soignants tombent malades, on va être très, très mal. Hein.
Ce n'est pas le but de la manœuvre. Hein.
Je suis un petit peu étonnée aussi que... Il n'y a pas une vaccination intense pour tous les soignants. Et ça pour deux raisons. D'après ce que... Bon, le manque de vaccins, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais aussi parce que certains soignants sont récalcitrants. Enfin,
je pense qu'il y en a de moins en moins. Hein.
D'accord. Comme dans la population,
oui,
donc.
Oui, je pense que alors là, c'est le paradoxe. Parce qu'on nous demande d'essayer de... promotionner le vaccin et tout ça. Alors,
Les émissions de télé font de la pub. Hein.
Oui,
vaccinez-vous les enfants.
Oui, mais nous, on a un rôle important parce que les gens, ils nous font confiance.
Bah, bien sûr.
Alors,
qu'est-ce que tu leur réponds quand
Maintenant, moi, je ne sais plus quoi leur dire. Hein.
D'accord.
Je leur dis que c'est le vaccin, il est effectivement, c'est la seule porte de sortie. Hein.
Mais
le problème, c'est que là, maintenant, on nous a dit il faut vacciner. Alors, on n'arrête pas de le rabâcher aux gens et tout ça. Puis maintenant, on n'a plus de vaccin. Alors, on a un peu l'air un peu...
Et puis aussi, tous ces gens, tous tes patients, téléphonent, comme je l'ai fait d'ailleurs.
Mais c'est à longueur de journée, hein.
Et docteur, j'ai pas eu de réponse.
Oui, je sais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut, par exemple, tous se pointer à la porte des centres de vaccination et attendre avec un petit pliant, tu vois? Je me souviens que j'étais allée inscrire Virginie dans une fac à Paris. J'étais arrivée à 4h du matin et je m'étais assise sur mon pliant et j'avais attendu.
Oui, mais je pense que là, il faudra que tu prennes une tente avec. Parce que j'ai peur que même ton pliant, il ne suffise pas, tu vois.
Bon, mais Yves, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi?
Ah ben moi, ce qu'il faut faire, tant qu'on n'aura pas de vaccin, moi, je n'ai pas de solution. Hein. Les standards sont bloqués partout. Moi, j'ai des patients...
Tu l'as constaté aussi, toi?
Ah ben, Dominique a essayé d'avoir, pour ma belle-mère, et puis pour une personne âgée qui était au-dessus du cabinet, là, qui a grosse insuffisance respiratoire, elle a essayé d'avoir deux rendez-vous. Et elle a, au bout de, je crois qu'elle m'a dit, 26 coups de fil, elle a eu quelqu'un qui lui a pris les noms et adresses, et on lui a dit, on va vous rappeler. Mais pour le moment, on n'a rien. Hein. Ça fait 3 jours. Hein. Et moi, je suis vacciné depuis jeudi dernier.
Sans problème.
Si on peut appeler ça comme ça. J'ai essayé de me faire vacciner sur Dreux.
Bien sûr.
Hein, parce que ça me paraissait logique.
Très Dreux, effectivement, 3,5 km, c'est bien.
Et donc,
je
n'ai pas trouvé de numéro. Il n'y avait rien.
Ne regrette pas, Yves, parce que moi, j'en avais plusieurs. Et malheureusement, il n'y avait pas moyen d'avoir des rendez-vous.
Et donc, il n'y avait pas moyen d'avoir un rendez-vous, même à l'hôpital. Hein, soi-disant, je pense qu'ils ont vacciné du personnel à l'hôpital, mais nous, moi, je n'ai pas réussi. Hein. Alors, en désespoir de cause, j'ai dit à Dominique, parce que ce que je voulais, c'est essayer d'avoir un rendez-vous avant le 18, parce que... Après le 18, je me suis dit, ça va être l'enfer.
5 millions de 75
ans,
et...
Ça, c'était prévisible. Oui. Hein, c'était prévisible. Et donc... J'ai dit, on va téléphoner à Chartres. C'est pas le bout du monde. Hein. Et donc, on a eu un rendez-vous tout de suite.
Eh ben, c'est super.
Et on a eu deux rendez-vous.
Oui.
Moi et Dominique.
Oui. Deux doses. Plus deux autres doses pour le rappel.
Voilà, moi, j'ai mon rendez-vous pour le 4 février.
D'accord.
La deuxième injection. Et par contre, à Chartres, on est arrivé, c'était bien, très bien organisé. Hein.
Bah quand même.
Très bien fléché.
La préfecture.
Très bien fléché. On est arrivé, on a attendu 5 minutes. Et puis on a été reçu. Alors après, on a rempli au moins 5 pages. Hein. Le médecin qui nous reçoit.
Yves, étais-tu conscient du fait que tu voulais te faire vacciner?
Ah ben moi, c'était indispensable, hein. Ah non, je vois pas comment on peut se sortir autrement de la misère, hein.
Enfin, je te pose la question, mais je connais déjà la réponse presque peut-être. Que penses-tu de l'efficacité de la vaccination en Israël? Le professeur Hervé Bercovier, professeur à l'Université de Jérusalem, résume sobrement la situation. Ici, les choses sont simples. Dans cette vaccination d'urgence, on demande aux gens oralement s'ils sont d'accord
Et puis,
et on les vaccine.
bah oui, moi je trouve que bah, vraiment, ça c'est d'une.
C'est du temps gagné,
Ah
quoi.
bah ça, oui.
Un de tes
Parce que moi, ce
confrères.
que j'aimerais savoir, c'est ce qu'on va faire de ces monceaux de papier qu'on nous fait remplir.
J'ai pas pensé à ça.
Ben oui, parce qu'on remplit, t'as un questionnaire, bon, que le médecin qui te reçoit, t'as un questionnaire, moi, ça me choque pas. Tu vas voir un anesthésiste, il va te poser des
Bien
questions.
sûr.
Donc,
Enfin, il faut quand
pour
même
les allergies, pour
réaliser
les
que
trucs.
ça s'adresse à des professionnels de santé. Tu es quand même, si
Oui,
tu
ben je
es
suis. Non,
toi-même
mais
médecin,
bon, oui, mais
tu
enfin,
connais
c'est
ton état de
oui,
santé.
mais c'est le questionnaire général, hein, c'est le questionnaire pour tout le monde.
D'accord.
Hein, donc tout le monde passe sur le même truc. Donc, alors je te dis, je pense qu'il y a au moins 4-5 feuilles. Hein, j'ai vu. Hein, et j'aimerais bien savoir où ça va, ça. Alors ça va faire des statistiques, de trucs, de machin, mais. Parce que, alors on te demande le consentement, le truc, bah, si tu viens te faire vacciner, c'est parce que tu es consentant. Hein.
Voilà, c'est ce que disait Bercovier, effectivement, s'il se
On
déplace.
t'a pas mis un pistolet sur la tempe pour te faire vacciner, faut quand même pas exagérer. Alors,
C'est
donc.
amusant parce que ça me rappelle une situation beaucoup plus drôle pour le mariage de ma fille aînée qui a épousé un Italien. Et le petit curé de campagne me disait, non, non, mais il faut absolument qu'un prêtre qui connaisse l'italien, qui soit même peut-être italien, vienne recueillir leur consentement parce que je disais, mon père, en fait,
Oui, on ne sait
ce
jamais.
monsieur va arriver dans l'église, super à côté de ma fille en robe de mariée, il est vraisemblable que s'ils vous disent si au lieu de oui, il n'y ait vraiment pas de problème.
Profond.
Mais c'est un petit peu ça
Ben,
finalement.
c'est parce que, écoute, si tu veux pas te faire vacciner, tu prends pas rendez-vous. Ça me paraît quand même,
Voilà.
ça me paraît la base. Hein. Je vois pas,
Alors,
hein.
ce qui serait peut-être plus logique, enfin, si je peux dire qu'il y ait quelque chose de logique là-dedans, ce serait que, avant de se faire vacciner, les patients qui te demandent ton avis, te demandent à toi s'il n'y a pas de
Ah
contre-indication avec leur
mais
état de
eh ben là,
santé.
ça y est, c'est parti maintenant.
Ah!
Maintenant, on a les rendez-vous pour justement qu'on établisse
Le check-up avant.
le check-up avant. Voilà.
Bon, ben ça va pas arranger les créneaux, ça.
Ça, non, ça augmente les consultations, hein. Et donc, et nous, on a un formulaire que tu remplis en allant sur Amélie Pro. Et tu remplis le truc.
D'accord.
Pour qu'ils aient, en fait, c'est une sorte de laisser-passer pour qu'ils puissent avoir un rendez-vous après.
Ça va réduire le chômage peut-être parce que
Bon,
tu vas être obligé d'engager quelqu'un là, je crois.
non, mais c'est.
C'est
Voilà.
un problème, hein, c'est sûr. Hein.
Le problème, c'est que ça va nous augmenter les consultations.
Bien sûr, bien
Hein?
sûr. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire un test, peut-être un antigénique ou l'autre, avant de se faire vacciner? Est-ce que ce serait important ça?
Moi, je l'ai fait.
C'est préférable. Parce que imagine, moi, le jour où j'aurais réussi à avoir un rendez-vous, que j'arrive et que sur place, on m'en
Ben,
fasse un et que j'ai le Covid.
c'est sûr que c'est pas idéal.
D'accord. Donc il faut mieux. Ouais.
Moi, je pense que pour moi, je pense que moi, je l'ai fait.
T'as une structure chez toi, je
Ouais,
crois.
ouais.
Alors donc,
Après, il suffit de prendre rendez-vous, hein.
bien sûr.
Donc, et puis c'est.
Yves, c'est très important ce que tu me dis là. Je vais me permettre de donner le numéro de téléphone ou appeler pour avoir un test antigénique.
Ben, c'est le numéro du cabinet, hein.
Oui.
02 37 82 63 94.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel. Marie-France Guimard-Roche est avec le docteur Yves Pupil dans nos studios d'Urocas pour une émission Histoire d'en savoir plus, le vaccin en question. Je reviens à tes patients. Est-ce que, bon, tu as beaucoup de gens, évidemment, de la campagne, enfin, oui. Et puis tous ceux de la ville qui n'ont peut-être pas pu avoir de rendez-vous, donc qui se, qui font un petit peu... Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont stressés à cause de la télé en continu, à cause des...
De toute façon, en ce moment, il y a un climat anxiogène terrible, hein. Terrible, hein. Puis il y a une espèce de... Il y a un ras-le-bol parce qu'on n'en voit pas le bout. Et les gens commencent à fatiguer, hein. T'as plus de resto, plus de ciné, plus... Là, on vient de supprimer les sports d'hiver. Ça s'ajoute. Hein. Et là, on commence à sentir le moral.
Des pans entiers de l'économie à l'arrêt.
Là, oui. Là, les gens commencent à trouver le temps long. Puis en plus, janvier, février, ce n'est pas les mois les plus favorables non plus.
Hein. Bien sûr. Ton avis pour l'avenir, est-ce que ça va s'arranger un petit peu au printemps? Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans tout ça? Est-ce que...
Moi, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus. Je t'avoue que moi, je ne suis pas très optimiste pour le moment. Hein, parce qu'on ne voit pas une grande amélioration. Hein.
Alors par contre, tu me disais que c'était assez étonnant, mais enfin beaucoup de tes confrères, j'imagine, l'observent aussi, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de maladies d'hiver.
Ah ben ça par contre, on voit plus pas de grippe, pas de gastro, pas de bronchiolite.
Même les enfants avec
Les bronchiolites, au cabinet, on en a, je sais pas, cette saison-là, au moment des fêtes, 20-25, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein, des bronchiolites, zéro, hein, mais c'est vraiment zéro, il n'y a rien.
Alors, évidemment, je suppose les gestes barrières, se laver les mains constamment. Comme quoi, effectivement, ça sert à quelque chose.
Comme quoi, on risque d'avoir le masque un bout de temps.
La distanciation, le masque, etc. Un de mes amis médecins disait que ce qui était très important aussi, c'était de voir les fenêtres. Alors là, on est peut-être un peu plus réticents parce que l'hiver, c'est moins.
On fait quand même assez régulièrement.
Pendant les studios, c'est sûr, on le fait. Cabinet.
Au cabinet, on le fait régulièrement. Donc, c'est bien aéré, donc il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que c'est aussi important. Hein.
Bien sûr, c'est très important.
Plus tu renouvelles l'air, moins tu as de chance de... Dans l'écho de la semaine dernière, le COVAX, le patron du service de pédiatrie, annonçait qu'il avait, je crois, moins 60 ou 70% de fréquentation du service. Il n'avait jamais vu ça, lui, depuis qu'il était à l'hôpital. Hein.
Alors, c'est peut-être la seule bonne nouvelle du
COVID. C'est la seule bonne nouvelle du truc, oui.
Ne boudons pas notre plaisir.
C'est impressionnant quand même.
Bien sûr, c'est très impressionnant. Une disparition si totale et soudaine, c'est vraiment... ça tient du miracle. À ton avis, là, il va falloir que tu t'engages forcément. Quels ont été les défauts majeurs, s'il y en a, dans la gestion de cette pandémie? Est-ce qu'ils sont rattrapables ou pas, à ton avis? Qu'est-ce qui pêche le plus, même actuellement d'ailleurs?
Je pense que ce qui pêche le plus, c'est cette lenteur administrative qu'on a. Quoi. On n'est pas réactif. Il faudrait qu'on soit un peu plus réactif. Hein. La vaccination, elle est prévue depuis plusieurs mois.
Oui, on se disait tous, on va avoir un vaccin, peut-être deux, peut-être trois. Et là.
N'importe quelle boîte à qui on dirait il faut être prêt pour le 15 janvier, les structures seront prêtes, la distribution des salles, le personnel. Ça doit être en place.
Les maires ont mis des salles...
Mais il faut que ça soit les maires, parce qu'avec eux, il n'y aura pas de problème. Hein. Il faut que ça soit fait. Mais alors après, le problème, c'est la distribution des doses.
Hein. Et pour accélérer les vaccinations, est-ce qu'on devrait solliciter les médecins libéraux
De toute façon, pour que ça soit rapide, il faut... Si on veut avoir une vaccination rapide, il faudra que ça se passe par les généralistes. Hein.
Et puis mobiliser tout le monde, peut-être.
Bien sûr. Mais ça pourra se faire que quand on aura le vaccin qui se conserve facilement.
Si dans le frigo, oui. Oui,
là,
bien sûr.
Là, techniquement, c'est beaucoup...
AstraZeneca, je crois, c'est le cas. Hein.
Ouais. Oui. Donc, a priori, ils doivent avoir l'agrément, je pense, la semaine prochaine. Donc, on l'aura peut-être... Mi-février, mais à combien de doses? Je ne sais pas combien de doses.
Oui, bien sûr. C'est toujours... On m'avait parlé d'une usine qui était en train de se monter à la place d'une usine qui existait déjà, d'ailleurs, à Saint-Rémy-sur-Avre.
Eh ben, mais ils vont faire du Pfizer à Saint-Rémy. C'était l'ancienne usine Abbott.
Voilà,
Abbott. Oui, bien sûr.
Deuxième bonne nouvelle.
Oui, oui. Non, mais
espérons qu'il y en aura d'autres.
Mais eux, ils vont, je pense que ça va être début mars qu'ils vont produire. Ah, mais je pense que là, on a encore un
gros trimestre.
Un gros mois. Et puis après, normalement, quand on va avoir les doses, ça devrait... Mais c'est sûr que la vaccination dans les centres comme ça, c'est pas pratique.
Bien sûr.
Moi, demain, on a des vaccins. Si on dit aux médecins et les infirmières peuvent vacciner, moi...
Je suppose que tu t'es déjà proposé, d'ailleurs.
Bah oui, non. Moi, je vaccine la maison de retraite, la Roseraie, jeudi prochain. Enfin, si j'ai les vaccins.
Oui, bien sûr.
Si on avait des vaccins, si avec l'autre vaccin, nous, on peut vacciner, vacciner la population de Tréon et des alentours, je vais te dire, on n'en a pas pour longtemps.
Oui, quand même, Yves, prépare-toi un peu parce qu'il y aura plus que la population de Tréon et des alentours.
Oui, mais je veux dire, si les infirmières peuvent faire les vaccins, à 4.
Oui.
Tu sais, à 4, tu peux vacciner.
Morissette plus quelques autres. Ouais.
On ne va pas vacciner comme dans le journal de ce matin, à la loupe, ils ont dû vacciner 20 personnes en 24 heures.
Mais encore, ils ont de la chance parce qu'à Alençon, ils ont été obligés de fermer le centre.
Oui, bah oui, non, mais bon, je veux dire...
Là, c'est aujourd'hui.
Il faut arrêter. Mm-hmm. 20 vaccins dans la journée.
Cette pandémie qui risque de durer ne sera sans doute pas la seule dans les années à venir. Est-ce que tu penses que ça peut se multiplier, ce genre d'épisode?
C'est pas impossible.
On sera prêt à ce moment-là?
À moi, non.
Non, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. On prendra les réservistes, Steve. Tu vas faire partie des réservistes.
Des réservistes. Oui,
tellement utile, c'est sûr. Bon, alors l'avenir de ta profession, ça...
Bon, moi je suis plutôt optimiste.
D'accord.
Non, je pense que... On a connu des... Mais je pense que ça va revenir, Ça va revenir. Ils ne pourront pas tous aller à l'hôpital, faut pas rêver.
Voilà, c'est ça le problème aussi.
Il va falloir revenir à des... Mais moi, je vois mes internes, ils découvrent la médecine de ville. Mm-hmm. Bah, évidemment, ça reste quand même le top.
Bien sûr.
Parce que tu as le contact avec les gens, évidemment, on n'a pas les structures, on n'a pas les trucs, mais bon.
Ce qui est vraiment irremplaçable en plus, c'est l'empathie que tu as vis-à-vis de tes patients. Tu les rassures.
En campagne, on a quand même.
On
a des contacts. J'ai deux familles, je dois avoir 5 générations. C'est fabuleux, ça.
C'est fabuleux.
Non, mais c'est ça. Et ça, ils commencent à se rendre compte que ça, quand même, c'est autre chose que même la spécialité, où
bien
tu
sûr.
Vois toujours la même chose, bien tu sûr. Vois le même truc.
Yves, merci infiniment d'être venu dans nos studios. Je suis vraiment très flattée d'abord que tu aies accepté, parce que Dieu sait si tu n'as pas que ça à faire en ce moment, ça c'est certain. Et donc, on termine sur une note optimiste,
absolument.
Ce qui me ravit. Yves Pupil, merci, au revoir. Et j'espère t'avoir donné envie de refaire de la radio, parce que ça me ferait bien plaisir de te revoir dans nos studios du Rocas.
Pas de problème.
Émilie Glory enregistrera et réalisera cette émission pour vous, chers auditeurs. Au revoir.